Bonjour, bonjour. Il faut que je suive mon texte, je regarde mon texte, hein, parce que sinon ça peut être un peu long. Normalement, c'est court. Donc, moi, c'est Kedli. Ça s'écrit K-E-D-L-Y. Voilà, c'est pour savoir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis arrivé à Angers il y a 3 ans environ pour mes études. Moi, je viens de Guadeloupe de base, près des Antilles, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai grandi là-bas et j'ai vécu environ 23 ans là-bas, puisque j'ai à peu près 26 ans aujourd'hui, je m'en souviens plus trop. Et du coup, je suis étudiant en médecine, voilà. Et voilà. Donc, je vais vous parler d'abord de mon enfance. On va parler de moi aujourd'hui et vous dire un peu ma relation avec Dieu depuis mon enfance. Du coup, moi, je viens d'une famille chrétienne, évangélique, de par ma mère, de par ma grand-mère surtout. Mon père, lui, il vient plus du milieu catholique, mais il s'est converti à la religion évangélique, quoi. Même s'il est un peu égaré parfois, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, moi, j'ai accepté Dieu dans ma vie, ça fait un moment déjà, ça fait, je pense que, moi, je m'en souviens plus trop, mais j'avais environ 6 à 7 ans, parce que ça remonte à... J'ai toujours eu Dieu dans ma vie, en fait, entre guillemets, quoi, de par ma mère et des enseignements qu'elle nous donnait. Par exemple, tous les vendredis, on avait des lectures bibliques. Des choses comme ça. J'allais à l'église aussi, mais j'ai arrêté d'aller à l'église peut-être vers mes 14-15 ans, je pense un peu comme tous les enfants. On m'a un peu forcé, quoi. J'étais un peu forcé d'aller à l'église parce que, bon, on a toujours envie de rester jouer à l'ordinateur le matin, le dimanche matin, plutôt qu'aller à l'église, quoi. Donc voilà, donc je suis allé à l'église jusqu'à mes 14-15 ans. Quand j'ai un peu plus pu y aller, ben, j'y suis plus allé, quoi. Je ne croyais pas trop en la communion fraternelle. Je lisais ma Bible chez moi. Et je priais, enfin j'avais foi en Dieu, hein. J'ai eu pas mal d'expériences avec Dieu depuis mon enfance. Mais j'ai eu une enfance globalement assez heureuse, hein, globalement, même s'il y avait des petits problèmes par moment. Mais je pense que des problèmes qui arrivent toujours avec des parents qui ne me comprenaient pas forcément comme j'aurais aimé être compris. On me reprochait par exemple d'avoir, pour moi, peut-être un peu trop foi en Dieu, d'espérer trop en Dieu pour mon avenir. Et donc on me disait, pense, enfin j'ai limite l'impression qu'on voulait que je mes parents voulaient que je m'inquiète plus de mon avenir, des projets professionnels, etc. Moi je disais Dieu fera, enfin voilà comme la Bible me le dit, donc j'ai toujours cru que Dieu ferait pour moi. Donc voilà. Mais sinon ça s'est bien passé dans l'ensemble, j'ai été bien éduqué, j'en suis assez ravi, assez content. Voilà. Donc ensuite les moments les plus, ce qui a vraiment changé ma foi en fait en Dieu, ça va être court, hein, le message est bientôt fini. Ce qui a vraiment changé ma foi en Dieu, c'est surtout à partir de l'université. Comme j'avais une relation parentale, j'étais pas bien compris par mes parents. Je me tournais plus, je pensais plus que c'est le couple qui me rendrait heureux en fait globalement dans ma vie, parce que être compris par une personne qui vraiment passe sa vie avec soi quoi. Donc j'ai eu ma première copine dans ma première année de médecine. C'était bon, ça date maintenant. J'ai eu le bac en 2015, donc j'avais 20 ans quoi, quand on commence les études, environ 19-20 ans. Donc j'ai eu ma première copine à ce moment-là, et c'est là qu'un peu les choses ont un peu dérapé. Mais il faut bien que ça dérape pour ensuite ressortir fortifié. Donc c'est là, voilà, j'ai eu ma première copine, on est sortis ensemble 2 ans. Et malheureusement, j'ai succombé au péché du sexe, hein, voilà, la tentation. Et je pense que c'est surtout ça qui a dû jouer aussi dans le drame qui a suivi. Donc du coup, on a rompu hein, malheureusement après 2 ans de relation. Et ça a été, voilà, ça a été le moment le plus dur pour moi. Environ, je passais en deuxième année de médecine, environ après un concours, pour ceux qui connaissent les études de médecine. Il y a un concours en première année, après, enfin bref, il y a la deuxième année. Du coup, là, j'ai fait une dépression en fait, basiquement. Pas plus qu'une simple dépression post-rupture. J'ai fait 2 ans de dépression en quasi complète. Même selon mes cours, c'était quand même plus ou moins sévère et assez chronique. Bon, bah, je restais dans mon lit comme une dépression pour ceux qui connaissent. Je restais dans mon lit, je mangeais plus. Je pesais 69 kilos. Enfin, j'ai pesé 69 kilos. J'en pèse 82 pour la même taille. Donc, j'ai perdu pas mal de poids. Je mangeais pas. Hein. Je crois que mon record, c'était 3-4 jours sans manger. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, ça fait un peu mal aux jambes hein, quand on mange pas trop longtemps. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je pleurais. Enfin, je priais toujours Dieu. J'avais toujours foi en Dieu, mais je savais que enfin, je m'ennuyais un peu de la vie. J'avais plus trop envie de vivre hein, pour dire les choses, et c'était plus que la rupture. Je m'ennuyais de la vie globalement, mes études, ma vie tout court. Donc, ça, c'est des symptômes un peu de la dépression. Et j'ai vécu comme ça pendant 2 ans, à juste en fait dormir, prier et attendre que Dieu fasse quelque chose de moi en fait. Basiquement, enfin, j'étais triste tout le temps, ouais, c'était difficile. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, ben, ça a bien changé, ça a bien évolué. Et je pense que si j'avais pas eu ce moment-là, j'aurais pas vraiment compris certaines choses. Il y a vraiment pas mal de choses qui m'ont été révélées à ce moment-là. Je faisais beaucoup de cauchemars. Je me souviens d'un cauchemar où j'avais vraiment rêvé d'une grosse bête. Là, je vous fais des anecdotes, mais je vais raccourcir. D'un géant dans ma chambre, un gros monstre dans ma chambre qui me disait qu'il allait me faire connaître le chaos. Donc c'était vraiment des cauchemars, mais tous les jours quasiment, j'avais des cauchemars. Mais en même temps, je suivais quand même la parole de Dieu. Je savais que Dieu m'en sortirait à un moment, que c'était un genre d'épreuve. Et donc voilà, c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, après 2 ans, ben, je m'en suis sorti. J'ai rencontré des gens, des chrétiens, qui, je pense, ont prié pour moi. Et ça m'a complètement délivré de la dépression, mais complètement. En très peu de temps, je me suis inscrit à un sport de combat que je pratique toujours aujourd'hui, depuis du coup à peu près 5 ans, 5 ans, 6 ans que j'en fais. Et du coup, maintenant, ça va mieux. Et du coup, je suis arrivé à Angers pour mes études. J'ai redoublé pas mal d'années, du coup, hein, parce que j'étais en dépression complète, donc j'ai redoublé mes années. J'ai dû redoubler 3 fois ma 2e année de médecine, parce qu'en fait, je bougeais pas de mon lit, j'allais même pas aux examens. Hein. Donc voilà. Mais depuis que je suis à Angers, du coup, j'ai dû guérir progressivement, parce que ça ne s'est pas fait en une fois. J'ai guéri d'abord une première fois, mais j'ai guéri après, je guéris encore, hein, basiquement. Mais le plus gros est fait. Donc voilà. Et du coup, je suis arrivé à Angers. J'ai dû arriver à l'église peut-être 1 an après être arrivé à Angers, parce que moi, j'étais pas très communion fraternelle. Hein. Je voyais 2, 3 versets qui parlaient de la communion fraternelle et de l'importance de communier avec les frères et sœurs. Mais moi, j'y croyais pas trop. Mais c'est vrai qu'en arrivant, je pense que ce que j'ai vraiment appris à Angers, c'est vraiment l'amour de Dieu, en fait. Je pense que c'est vraiment ce que je peux pointer. C'est qui est Jésus. Je pense que c'est vraiment ce qui a vraiment changé, qui a vraiment été une révélation pour moi, c'est de savoir qui était Jésus, en fait, parce que j'ai toujours été chrétien. Mais c'est-à-dire que Jésus, on croit le connaître, mais moi, j'ai vraiment appris beaucoup plus qui il était, à Angers. Les versets, j'avais lu toute ma Bible plusieurs fois, hein, mais je pense qu'il suffit pas juste de la lire. Il faut vraiment avoir une révélation de Dieu, en fait, pour vraiment comprendre. L'amour de Dieu, en fait, j'ai pas de verset sous la main pour. Il y en a en tout cas des versets qui parlent de l'amour de Dieu, à quel point il nous aime. Et je pense que ce que j'ai pas vraiment appris dans ma famille et dans mon éducation chrétienne, c'est vraiment l'amour de Dieu, en fait. C'est vraiment cette relation d'amour, comment il m'aime, comment il va rester fidèle, comment il est toujours. Il m'accompagne tout le temps. Donc voilà, j'ai raccourci un petit peu, je sais pas ce que j'ai mis. Donc voilà, je vais passer directement à des versets que j'ai choisi. Je vais lire les versets pour vous. Jérémie 9. Voilà, c'est un peu les versets qui ont conduit ma vie. Je pense qu'ils ont toujours conduit ma vie, ces versets-là. Donc, c'est le fameux projet de paix et non de malheur, pour ceux qui connaissent, de Jérémie 29, 11. Donc, je vais vous le lire, hein. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. C'est la version français courant. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Voilà. C'est un verset qui a conduit ma vie. Et j'en ai un deuxième. C'est pour ça que j'ai raccourci mon témoignage pour vraiment mettre les versets. C'est dans celui-ci, c'est le fameux les oiseaux dans le ciel. Ça a guidé toute mon existence. Hein. Les oiseaux dans le ciel et les fleurs des champs, pour ceux qui connaissent. Donc c'est Matthieu 6. J'espère que je suis dans les temps. Matthieu 6. Vous pouvez chercher aussi si vous voulez, mais 25, je crois, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'est le 26, je vais commencer au 26. Allez, au 25, allez, 26. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que des oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent pas, elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Je vais m'arrêter là, sur ce verset-là. Donc voilà, moi ça m'a vraiment touché. En fait, ce qui m'a plus touché, c'est que Dieu ne nous nourrit pas seulement, il nous habille, il nous fournit vraiment ce qu'il faut. Et donc j'en profite vraiment pour encourager tout le monde à ne pas croire uniquement en Dieu le Père, en Dieu le Fils Jésus, mais vraiment croire aussi au Saint-Esprit, parce qu'on connaît hein, les trois personnes de Dieu, Père, Fils, Esprit. Je pense qu'on devrait vraiment croire au Saint-Esprit, croire que Dieu aujourd'hui, il est en nous, en fait, au travers du Saint-Esprit, et qu'en fait, il nous rend capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Moi, la dépression, je savais que j'en serais pas sorti tout seul, c'est une certitude, mais je savais que l'Esprit de Dieu, en fait, allait agir pour justement m'en sortir, pour justement me guérir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je choisis de me baptiser pour finaliser un peu mon parcours avec Dieu, enfin finaliser, faire un petit passage supplémentaire quand même, qui est quand même assez important. Et donc voilà, j'invite ceux qui ne sont pas baptisés à se faire baptiser. Voilà. Et j'espère que tout le monde aussi sera baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment important d'avoir le Saint-Esprit en soi et d'être guidé par Dieu, parce que la parole est claire et le Saint-Esprit nous enseigne, il nous guide. Donc je pense que chacun devrait se laisser vraiment guider par le Saint-Esprit. Amen.
Kedley, on a entendu ton témoignage. Tu as dit que tu voulais suivre Jésus. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui. Oui.
Alors écoute, sur la confession de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Longtemps, on a dit. Voilà, Mika, si tu veux venir.
Alors, qui aurait cru que le Seigneur m'avait toujours donné accès à sa miséricorde après tout ce qui s'était passé ? Et c'est la vérité. Et pourtant, il m'a toujours tendu sa main. Bonjour à tous, je m'appelle Mika, j'ai 21 ans, je suis originaire de Madagascar et si je suis ici devant vous, c'est notamment pour vous faire part de mon témoignage. Alors, pour commencer, mon enfance était plutôt centrée dans une famille chrétienne évangélique. Et donc une éducation chrétienne tout au long de mon enfance. Donc on peut dire que j'ai plutôt apprécié mon enfance dans notre ancienne église évangélique. C'était plutôt heureux, c'était bien. Mais malheureusement, en fait, nous avions dû quitter cette église lors de mes 10 ans. Par conséquent, on rejoint une nouvelle église qui vient d'ouvrir. Cependant, en fait, c'est là où tout commence à se détériorer. J'ai commencé à fréquenter les mauvaises personnes durant mon adolescence. Et le culte durant l'église était plus un moment pour moi de faire ce que je voulais, en traînant avec d'autres personnes pour faire autre chose que d'assister au service du dimanche. Tout cela a donc créé une doctrine en moi où Dieu était juste un génie qui m'aurait exaucé tous mes souhaits sans que je m'intéresse à lui. Ce qui est évidemment une image de Dieu par intérêt. Le temps passe et la crise du Covid arrive. À ce moment de ma vie, j'avais plein de projets prévus dont j'avais mis tous mes efforts parce que j'ai tellement travaillé dessus. Mais malheureusement, après quelques mois, ça a été refusé et beaucoup d'éléments de ma vie personnelle s'écroulent également, ou beaucoup de personnes auxquelles j'étais proche et attaché m'ont abandonné. J'étais donc insatisfait de ma vie à cause de cette image de Dieu que je me suis formé, où en fait seuls mes intérêts étaient les plus importants, même si au final il m'aurait détruit, et le péché même étant la source de cette insatisfaction au plus profond. Je tombais donc violemment dans une forte dépression émotionnelle, et donc j'avais plus envie de vivre. Je me disais que Jésus n'en avait rien à faire de moi probablement, et donc j'étais un peu en colère contre lui à un moment donné. À ce moment-là, en fait, je me dis, si je meurs, tant pis, si je vais en enfer, je le mérite de toute façon. Et donc, à ce moment-là, en fait, je me disais que j'arrêterais de porter ce terme chrétien dans le futur. Et j'ai commencé aussi à dire à mes parents que je préfère mieux rester à la maison que d'aller à l'église le matin. Mais ils ne sont pas trop appréciés. Pourtant, en fait, lorsque tout espoir tangible échappait, la seule personne qui restait était lui, Jésus. J'ai donc décidé de confier ma vie au Christ quelques temps après mes 18 ans et donc de me repentir de mes péchés. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, car un changement est né en moi et un espoir à la vie est né. Petit à petit, le salut était clair pour moi, car il ne concernait ni mes œuvres, mais celui de Jésus à la croix, et que c'était le don de Dieu. J'ai alors compris réellement la définition de l'amour de Dieu qu'en parle Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, depuis ma rencontre avec le Christ, mon mode de vie a petit à petit changé et mes anciennes croyances ont été déconstruites. les valeurs bibliques auxquelles je m'y tenais ne me faisaient plus honte. Et le Seigneur a donc fait briller une lumière dans ma vie, malgré les combats. Et lui-même est donc celui qui guide mes pas dans ce monde si obscur. Et maintenant, je peux dire que j'ai vécu tant de choses, mais le Seigneur était tout le temps là. Désormais, l'objectif de ma vie est donc de servir le Seigneur et de ne vivre que pour lui.
Mika, je vais te poser deux questions. Tu répondras par oui, je l'accepte ou oui, je le crois. D'accord ? La première question, acceptes-tu de suivre le Seigneur Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel ?
Oui.
Crois-tu qu'en sa mort et en sa résurrection, tu as le salut de ton âme ?
Oui.
Alors, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus dans la vie de Mika. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur base de ta déclaration et de ton acceptation de foi en public, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée. Donc je vais vous parler de mon témoignage. Je n'ai pas encore vécu beaucoup de choses avec Dieu, mais je vais vous raconter ce que pour le moment j'ai vécu. Alors je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, plutôt pratiquante. Donc je n'ai pas connu Dieu quand j'étais jeune et je n'étais pas non plus dans une école privée. Donc je ne l'ai pas rencontré dans ma jeunesse. Mais pourtant, quand je suis arrivée au collège, le collège c'est souvent les années où on commence à parler des croyances, de la religion avec nos amis. Et j'ai réalisé que je savais au fond de moi qu'il y avait un Dieu et que j'avais toujours cru. Et donc, dès ces premières années de collège, j'ai eu un appel à me faire baptiser. Pourtant, je n'avais aucune connaissance de la religion. Je ne savais même pas dans quelle religion je me retrouvais. Et je ne savais ni quel était le Dieu pour moi auquel je croyais depuis petite. Et pourtant, j'avais quand même cette envie de baptême qui était très forte. Et sur le moment, je me souviens très bien que j'avais aucune idée de pourquoi, justement, je voulais ce baptême. Et avec ces années de collège, j'ai commencé à vraiment me renseigner. J'ai naturellement été vers les chrétiens. C'est ce qui m'a paru évident. Et j'ai été voir chez les catholiques, j'ai été aussi voir des prêtres orthodoxes. Donc j'ai été un peu partout, mais je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Et je pense que j'attendais surtout une évidence. Mais pour autant, je ne cherchais pas la face de Dieu directement. Je n'allais pas directement voir Dieu, j'allais voir dans tous les endroits où il se trouvait, mais je n'allais pas le voir directement. Et c'est environ un an et demi, quand je suis rentrée au lycée, que j'ai vraiment commencé à chercher Dieu. Et aussi quand j'ai rencontré Émile, qui était déjà dans la foi, il m'a permis vraiment de me donner la motivation d'aller chercher Dieu. Et donc j'ai vraiment arrêté de me poser des questions, j'ai commencé à lire la Bible, à aller à des messes, j'ai commencé à prier. Et donc j'ai vraiment commencé à établir une relation avec Dieu, celle que je cherchais depuis toutes ces années. Et c'est, je pense, véritablement à ce moment-là que j'ai commencé à croire, parce qu'avant, je croyais en quelque chose qui était flou, et j'ai commencé vraiment à croire en quelque chose de concret. Et donc tout a pris sens. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment entamé ma marche avec Dieu. J'ai commencé vraiment très fort, parce que je lisais beaucoup, je priais beaucoup, j'étais vraiment très motivée. Mais mon année s'est vite dégradée, j'ai commencé à aller très mal l'année dernière. Et donc j'allais pas du tout bien, ça n'a pas été simple. Et je me disais souvent que Dieu allait jamais m'en sortir et j'étais en colère contre Dieu parce que je comprenais pas comment il pouvait m'être dans une situation comme ça sans m'en sortir. Et quand j'avais rencontré les gens qui me parlaient de Dieu, ils me disaient tous que Dieu, quand on le rencontrait, on était forcément heureux, on avait la paix et donc je comprenais pas pourquoi Dieu me laissait dans cette situation. Et je voyais vraiment les gens autour de moi vivre leur foi et aller bien, même si des fois ça allait un peu moins bien. Ils avaient quand même la joie, et moi je ne connaissais pas cette joie. Et je ne comprenais pas comment c'était possible donc, que Dieu me laisse dans cette situation. Donc ma relation avec Dieu n'était pas stable, et j'arrivais juste pas à lui faire confiance et à croire qu'il allait m'en sortir. Et c'est finalement quand par sa grâce je suis sortie de cette situation, que j'ai réalisé tout ce que Dieu avait fait pendant cette année. Mais j'ai réalisé uniquement en fait en prenant du recul et en étant sortie, parce que pendant toute cette année, j'avais quand même prié, j'avais quand même appris à le connaître, mais je ne le connaissais pas encore assez pour réaliser que même dans ces moments-là, il pouvait être à l'œuvre et que malgré le fait qu'on puisse vivre des situations qui soient dures, Dieu, en le suivant, on n'est pas exempté de ces moments-là, mais on est assuré d'avoir une personne qui sera toujours là pour nous et qui sera toujours là pour nous en sortir, mais en son temps, parce que Dieu n'a pas le même temps que nous. Et ça, j'ai pris du temps à le réaliser. Et justement, il y a un verset qui illustre ce que j'ai vécu, c'est Jean 8, verset 12. Jésus parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et j'ai compris justement avec cette année-là qu'en suivant Dieu, on devait apprendre à lui faire confiance, et ce n'était pas forcément simple au début quand on commence dans la foi, parce qu'on le connaît très peu, on ne le voit pas, et on doit lui faire confiance. Et donc c'est vraiment pas simple, mais c'est justement en passant par des situations comme celle-là qu'on peut vraiment réaliser que la confiance qu'on a en lui, on peut lui offrir les yeux fermés. Et on la vit pour une raison, et Dieu ne nous mettra jamais dans une situation qu'on ne pourra pas surmonter. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je décide de m'engager encore plus envers lui, en prenant le baptême, parce que je lui fais confiance, et il me l'a prouvé, et il continue de me le prouver. Et il sait que le baptême que je prends aujourd'hui, c'est un rêve depuis très longtemps. Donc voilà. Amen.
Lucie, acceptes-tu de suivre le Seigneur Jésus comme étant ton seul et unique Seigneur et Sauveur?
Oui, je l'accepte.
Crois-tu qu'en sa mort et en sa résurrection, tu as le salut de ton âme?
Oui.
Alors je vais prier pour toi. Père, je te glorifie pour la vie de Lucie. Merci pour ton amour dans sa vie. Saint-Esprit, merci de vivre en elle. Merci d'être sur elle et en elle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur base de ta déclaration de foi en public, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Bonjour à tous, je suis tellement content d'être ici aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, là je vais confesser ma foi, pourquoi je crois en Jésus et pourquoi je veux le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Et donc je vais commencer mon témoignage. Souvent on me demande, crois-tu en Dieu? Je ne réponds pas simplement, oui je crois en Dieu, je dis que je connais Dieu. Souvent j'entends, comment peut-on croire en Dieu? Et souvent je me demande, comment ne peut-on pas croire? Que j'ai les yeux fermés ou ouverts, je le vois et je l'entends, mais eux ne le voient pas, ne l'entendent pas et n'y croient même pas. Ensuite on me pose la question, de quelle religion es-tu? Je répondrai, je n'ai pas décidé de suivre une religion, j'ai décidé de suivre Jésus. Je n'ai pas choisi la loi, j'ai choisi sa grâce. Beaucoup ne peuvent comprendre ce que je dis, mais une fois que votre cœur a goûté à cet amour, votre vie change pour l'éternité. Cet amour, je l'ai connu et depuis je vis dans le feu de l'amour et de la paix. Ce que tous les hommes cherchent, je l'ai trouvé. Chrétien, musulman, juif, athée, bouddhiste ou païen, que sais-je. Ce que vous avez été à votre naissance ne compte que peu, et Dieu est tellement juste qu'il a laissé à chacun son chemin à faire vers lui. Moi, je suis parti athée, et presque ici, tout le monde connaît mon histoire. Et je vais encore une fois la partager, l'histoire de ma vie, et je veux que cette histoire ne soit pas simplement l'histoire de ma vie, mais que vous la perceviez comme l'histoire de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et cette fois-ci, ce ne sera pas pareil que la dernière fois, puisque aujourd'hui, c'est sûrement le plus beau jour de ma vie. Donc si vous voyez quelques émotions sur mon visage, c'est parce que j'ai décidé devant vous d'aujourd'hui, par ce témoignage, d'enterrer cette vie ancienne que je vais vous raconter. Je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans, et si je devais me qualifier en une seule phrase, je suis un disciple du Christ. J'ai grandi dans mon enfance dans une famille athée, et de même que si vous étiez dans une religion théiste, la croyance des athées se transmet également aux enfants, et j'en suis l'exemple. Par la transmission de mes parents, toute mon enfance, j'ai été persuadé qu'il n'y avait aucun Dieu qui puisse exister. Lorsqu'on vous répète que si Dieu existe, pourquoi tout ce mal? La religion est quelque chose pour manipuler les gens, et je pourrais citer encore d'autres soi-disant arguments qui ont forgé une véritable opinion en moi, qui m'a amené jusqu'à mes 15 ans à être très virulent vers le camp de ceux qui suivaient le christianisme. En parallèle, j'étais un garçon qui gérait mal ses émotions. Ça m'a amené à quelques occasions à être quelqu'un d'assez violent et impulsif. Donc je me souviens d'une petite anecdote où j'avais giflé quelqu'un parce qu'il me disait que Jésus existait. C'est une petite anecdote en réalité qui résume ce que j'ai été. Et me voilà ici aujourd'hui. Mon collège a été l'aboutissement de tout cela, parce qu'étant dans un collège catholique, j'ai provoqué la religion qui se proclamait du Christ et ceux qui y adhéraient. Des années plus tard, alors que mon opinion sur Dieu, tout comme ma connaissance sur Dieu, était morte, J'étais au lycée et je menais ma vie dans le monde. Lors de ma deuxième année de lycée, j'ai perdu beaucoup d'amis et je me sentais seul et en perte de repères. J'avais extrêmement peu confiance en moi. Pour vous situer la période, nous sommes en septembre 2019 et j'arrête le sport par la suite, qui était une grande partie de ma vie, qui a été retirée. En viendra une descente aux enfers qui m'a mené vers le paradis. Je suis quelqu'un de nature gentille, vous le voyez, je pense, mais cette face cache une autre facette de moi qui était celle d'impulsivité. Mes parents qui sont ici et ma sœur également peuvent en témoigner aussi sans plaindre. Cet abandon de mes amis, du sport que j'aimais tant, me fait perdre toute mon identité, m'a fait puiser mon identité dans tout ce que j'avais de plus mauvais, une violence, la malveillance, l'impudicité et toutes ces choses-là. J'ai envie de rester pudique sur ce que j'ai pu faire dans ma vie, non seulement parce que je vais vous dire que le vieil homme est mort, mais non seulement parce qu'il y a ma mère qui est là et j'ai pourvu qu'elle entende tout. Très clairement, je mens, je vole, je tape, je descends petit à petit dans un mood très destructeur et je deviens ainsi. Et vient le point de retour, le confinement. Sans mes parents, sans mes amis, qui pour ces derniers n'ont jamais pris une seule de mes nouvelles, et avec ma petite sœur, qui, je sais, a vécu des moments difficiles tout comme moi, et je voulais te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur m'a dit de te dire ça. Dans le contexte qui était accompagné d'une situation déjà difficile, je tombe dans une dépression qui me fait tout d'abord perdre goût à la vie, et par la suite m'entraîne dans des crises de colère sans nom, prenant une fréquence de plus en plus rapprochée. Je passe d'une fois par mois à chaque jour crier, frapper, me faire saigner de rage. La rage que je vous cite était plus que la dépression. Elle était spirituelle et ma nature impulsive a dominé sur elle et a pris sa forme. Je regarde aujourd'hui les marques de mes mains, non pas comme des cicatrices, mais comme une raison de louer l'Éternel qui a fait passer de ses mains en sang à des mains jointes vers le ciel dans la paix et loin de cette rage. J'ai vécu plus d'un an et demi comme cela, dans une solitude et une bataille très 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 intense. Je me livre à des pratiques de perdition, j'ai fréquenté les mauvaises personnes, consommé de l'alcool, etc. Vient l'été 2021 et qu'est-ce que j'aime cette période? Alors ce qui va suivre, vous allez dire pourquoi tu aimes bien cette période. Mais... il y a des gens qui ont traversé la dépression ici, je le sais, et vous connaissez tout comme moi cette sensation que rien ne va jamais s'arranger et ne jamais voir le bout de sa peine. Je développe des idées noires jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve sur un pont d'autoroute seul et je me fixe l'horizon en me posant la question de est-ce que si je saute ou non. Je décide de ne pas sauter, mais c'est à ce moment que je me suis rendu compte de mon état mental. Et malgré le fait qu'après cela, j'ai essayé de m'en sortir, j'étais face à un mur, les pensées démoniaques qui me harcelaient ne cessaient jamais. Un soir est venu où mon désespoir était tel que j'ai envisagé d'en finir pour de bon. Je me disais que c'était trop et que je ne pouvais plus supporter cela. Alors que j'étais en pleurs sur mon lit, une voix m'est venue me dire que s'il y a quelque chose qui peut me sauver, c'est divin. Et j'ai prié sans me soucier de qui je priais, simplement disant « Je ne sais pas si tu existes, mais si oui, change ma situation et je serai un soldat pour toi, ton plus grand disciple. » Cela fut suivi de pleurs et d'une pub qui m'a parlé de Jésus. Décevant cette vidéo qui me parlait de son amour, je me suis mis tout d'abord à pleurer, puis à m'énerver, pour je ne sais quelle raison. Quelques semaines plus tard, ma situation est toujours la même, depuis cette même scène, et se déroule une scène similaire, et lorsque je prie, je ne demande plus à Dieu de changer ma situation, mais que mon cœur trouve la paix et qu'il l'accueille. Dans les jours qui suivent, je tombe sur un témoignage chrétien sur YouTube, que mon téléphone propose par inadvertance, et je suis frappé par la paix que cette personne avait, comme si j'avais demandé la paix dans ma prière et que Dieu m'avait envoyé ensuite un lien YouTube et me montrait comment l'avoir. On me parlait une nouvelle fois de Jésus et donc j'ai commencé à lire la Bible. Et tout cela était inconnu pour moi. Il se déroule des semaines où j'ai simplement lu, mais sans être touché ou changé. Mais là, cela me plaisait de lire ce livre. J'ai donc continué et j'ai ensuite découvert l'histoire de Jésus. Son message, et j'ai compris que si la vie avait un sens, c'était lui. Je voulais le suivre. Je me suis de plus en plus intéressé à Jésus et ma vie a commencé à changer très vite. Je suis passé d'une vie de ténèbres à une vie de lumière. Petit à petit, je commence à me considérer chrétien en me disant « Chouette, je vais enfin pouvoir la même religion que mes ancêtres ». En continuant de m'intéresser à Jésus, j'ai compris que justement, suivre Jésus, c'était bien au-delà de suivre une religion. La relation personnelle à laquelle Dieu nous appelle va bien au-delà de tout ça. Elle est remplie d'amour et de simplicité. Un soir est venu, quelques semaines plus tard, après ce coup de foudre envers Jésus, où je me suis enfermé dans ma chambre, non pas pour frapper ou crier, mais pour prier, et j'ai prié avec foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis effondré en pleurs devant Dieu. J'ai ressenti son amour pour la première fois. Ainsi, ma vie a changé. Il a suivi un songe dans la même nuit que je vais vous raconter. Une porte s'est ouverte et j'ai vu une lumière blanche si grande. Elle était en forme d'une croix et cette croix formait les bras d'un homme qui me tendait les bras. À vrai dire, je ne peux dire avec mes propres mots ce qu'elle dégageait tellement que c'était fort. Elle était si impressionnante que je me suis mis à reculer. J'avais conscience que ce n'était pas un rêve, une expérience spirituelle très forte et que ma vie changerait suite à cela et que j'en témoignerais. Cette lumière est venue se jeter sur moi et m'a envahi de son amour que je ne pourrais décrire. Je me suis réveillé, à vrai dire, je ne sais pas si j'ai été plus sage. Mais après, toutes mes emprises démoniaques étaient mortes, mon mauvais comportement passait et un amour a envahi ma vie. À partir de ce jour-là, j'ai été sauvé. Et normalement, c'est ici que je devrais terminer mon témoignage, et c'est ici que je l'ai terminé la dernière fois. Et malgré le fait que je sois pressé de passer dans l'eau, je vais continuer parce que a suivi certaines choses. Je vais vous dire ce qui a suivi. Lorsque la grâce est venue à moi, elle m'a restauré. Je n'ai pas eu la force de l'honorer. J'ai renié beaucoup trop de foi. Elle qui était nouvelle, j'ai eu peine à entretenir ma foi. Perdu dans le choix de la branche, catholique ou protestante, je ne comprenais rien de ce que les hommes ont créé comme division. Je me disais, qu'est-ce que Jésus pense? Et quand venait le moment de partager la bonne nouvelle, je me disais, est-ce que je suis prêt? Trop de fois, j'ai été Pierre, j'ai renié plus que trois fois. Je suis tombé dans les doutes, les doctrines athées. Je suis tombé dans les chambres de prostituées. Je suis tombé dans les boissons qui m'ont enivré. Je suis tombé, car j'ai trop de fois renié. Trop de fois, j'ai oublié ce que Dieu avait fait. Alors que Pierre avait marché sur l'eau avec Jésus, il l'a renié. Alors que Jésus m'avait guéri, je l'ai trahi. J'ai passé 2 ans à vivre dans le secret, vivre ma foi, mais qu'à moitié. Je ne doutais pas de son amour, mais comme le jeune homme riche, je n'étais pas prêt à tout lâcher. Lorsque j'ai compris que je pouvais mourir à chaque instant, que la Bible est un livre vivant, que quand la parole vit en toi, elle jaillit en dedans, te donne la paix, la sérénité, la joie et la force, comment ai-je pu faire sans ? En septembre 2023, par la grâce de Dieu, je suis arrivé sur Angers pour les études. L'église du Colombier m'a vraiment touché la première fois que je suis venu, et ça devait être la seule fois où je venais. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais je reviendrai ici. Au final, je me fais baptiser ici. Par la suite, mon arrivée à Angers s'est bien passée lors des premières semaines, mais vivre seul et être dans une ville aussi dynamique que Angers m'a attiré dans des mauvais vices qui m'ont fait beaucoup de mal. J'ai vécu ma période spirituelle la plus basse, jusqu'à vouloir renier ma foi, et un soir, je me suis dit, mais pourquoi en fait j'ai cru? Et je me suis raconté ce témoignage à moi-même. Et je me suis souvenu de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Je n'avais plus aucun doute. Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai eu à peine le temps de chercher que Dieu m'a touché de manière si forte. Il m'a en un claquement de doigts complètement transformé, renouvelé dans l'esprit. J'ai renforcé ma foi, des miracles se sont passés. Et Dieu m'a répondu jusqu'à ce que je m'effondre encore. Et Dieu m'a donné des dons que je n'avais jamais eu avant. Jamais je ne pensais ça possible. Et Dieu m'a fait percevoir ce baptême. Il m'a fait percevoir la suite, mon service. Il m'a fait percevoir par la suite comment cela toucherait les gens qui m'entourent. Car certes, Dieu m'appelle à servir et je m'engage aujourd'hui. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour abandonner ma vie ancienne et à le servir aujourd'hui. Mais si parmi tout cela, l'amour et l'humilité ne sont pas, je ne suis qu'un mercenaire, je ne suis qu'un pharisien et je ne serai qu'un chrétien tiède. Mais je suis fier et heureux ici de vous dire: je ne suis pas un chrétien tiède, je suis un serviteur de Christ, bouillant pour toi, Seigneur. J'ai tout dit et tout surmonté, Père. J'ai vaincu la tentation par ta grâce et seulement par ta grâce. Je suis ton enfant et ton soldat. S'il faut être malmené devant les foules, je m'engage à t'être fidèle. S'il faut passer mes jours en prison, je m'engage à t'être fidèle. Si un lieu est déserti que de toi, je m'engage à renoncer à ma timidité. Si le sommeil et la fatigue me prennent, je m'engage à ne plus procrastiner. Je m'engage à mourir pour toi, car tu es mort pour tous, afin que tous nous vivions pour toi. Père, ton amour est si grand que je ne sais jusqu'où il va. Père, tu connais tout et tu connais combien mon amour est grand pour toi. Papa, je suis prêt. Plus rien de ce que je suis est. Tout est nouveau. Aujourd'hui est la fin de mon ancienne vie. Aujourd'hui est le début du reste de ma vie. Ça fait si longtemps que j'attends ça. Papa, je suis prêt.
Mathéo, acceptes-tu de suivre le Seigneur Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur?
Je l'accepte.
Crois-tu qu'en sa mort et en sa résurrection, tu as la vie éternelle?
Oui, je le crois.
Père, je te rends grâce pour la vie de Mathéo. Seigneur, merci de continuer ton œuvre dans sa vie, qu'il soit un autel de prière et de sanctification. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur base de ta déclaration et de ton acceptation en public, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ.
C'est toujours émouvant, hein, les baptêmes. personnes qui sont changées et transformées par le Christ et par l'Esprit Saint, d'où l'idée de chacun de ceux qui se sont fait baptiser, nous ne suivons pas une religion, mais nous sommes disciples du Christ. Cette semaine, c'est Pâques, hein, et il y a un pasteur qui a envoyé une vignette humoristique. C'est un curé qui est en fin de vie, il est en train de mourir. Et donc il a demandé au médecin, voilà, je suis hospitalisé, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, appeler un politicien et un banquier. Alors, ben, effectivement, assez rapidement, le banquier, l'homme politique arrive et le curé leur dit, est-ce que vous pourriez vous asseoir l'un à gauche, l'autre à droite, me prendre la main? Donc, c'est ce qui s'est produit. Et puis, au bout d'un moment de silence, il y en a quand même un qui dit, mais pourquoi nous faites-vous l'honneur de venir à votre fin de vie? Et lui de répondre, Jésus a été crucifié entre deux brigands et je voulais faire la même chose. J'aime ce genre de truc. Je suis pas contre le curé ni contre le banquier ou l'homme politique, mais j'ai trouvé ça rigolo. Bon, voilà, c'est un humour que j'aime bien. En fait, ce récit m'a remis en pensée ce que j'ai vécu avec un homme à la prison, puisque j'ai été aumônier à la prison pendant 24 ans, et voilà que quelqu'un me téléphone et me dit « Est-ce que vous pourriez aller voir quelqu'un à la prison pour moi ?» Donc j'y vais, je demande, j'appelle cet homme où je fais appeler, et puis une grande grille nous sépare, et je l'entends... Il dit au bout d'un moment, qui est-ce qui m'appelle? Alors je lui dis, ben c'est moi. Ben vous êtes qui? Alors je lui dis, ben je suis l'aumônier protestant. Et il commence à hurler, mais vraiment à hurler. J'en ai rien à foutre de l'aumônier protestant, ni catho. Et il dit au surveillant, si tu m'appelles encore pour des conneries comme ça, je te casse la gueule. C'était violent. Alors il allait partir et je lui ai dit, ouais, mais j'ai un message à vous faire passer de quelqu'un de l'extérieur, sans que l'administration le sache. Ah, donc il est venu. On était dans un tout petit box, juste la place pour deux chaises et une toute petite table. Et je lui dis, vous avez tué une jeune femme? Ouais, alors, ça peut vous foutre. Ah ouais, mais... vous savez que son frère, c'est un flic? Oui. Et alors? Je dis, ben, c'est le flic qui me demande de venir vous voir. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Et puis, il se met comme ça. Je me dis, je vais prendre une patate. Son frère, le frère de ta victime, te dit, je te pardonne d'avoir tué ma sœur. J'ai dû lui répéter deux fois. Quoi? Je te pardonne d'avoir tué ma sœur. Il était KO. Il ne pouvait plus se lever de la chaise. Et reprenant au bout d'un moment ses esprits, il me a dit, je me suis toujours demandé comment moi j'aurais réagi en tant que frère ou sœur, mais enfin en tant que frère dans une situation comme celle-ci. Un brigand qui avait assassiné cette jeune femme à coups d'extincteur. Et voilà que, au travers de cette circonstance, il me dit, il faut que j'en sache plus. Alors, comment se fait-il qu'un homme puisse venir me dire qu'il me pardonne mon geste. J'ai accompagné ce gars. Il a pris 30 ans de prison. Normal, hein ? 30 ans. C'est le seul que j'ai accepté de baptiser parce que j'ai eu pas mal de demandes, mais je disais aux détenus, ben écoute, par respect pour toi, on va attendre que tu sortes et puis on verra si dehors tu veux toujours marcher avec Dieu, quoi. Parce que je ne veux pas profiter de toi. C'est pareil quand je fais mes visites à l'hôpital, je ne veux pas profiter des gens, ni au CHU, ni à l'hôpital psy. Et donc, ce gars-là a demandé effectivement le baptême. Sa vie a été bouleversée à l'intérieur de la prison parce qu'il avait été chef dans les ateliers, il avait fait faire grève tout le monde. Et là, il a écrit un témoignage dont le titre, c'est « Lorsque j'étais dehors, j'étais en prison. Maintenant que je suis en prison, j'ai trouvé la vraie liberté. » Parce qu'il avait trouvé la liberté du cœur. Et même les surveillants n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ce gars-là, si violent, si pénible, était comme ça en train de changer. Le jour de son baptême, juste avant de rentrer à la prison, le frère de la victime m'a laissé un mot. Est-ce que vous pourriez lui dire un mot pendant ce temps de baptême, qui n'était pas un baptême par immersion, hein, vous comprenez bien qu'à la prison, ce n'était pas possible. Et le jour de son baptême, le frère de la victime lui apporte ce message. Les choses anciennes sont passées, le Seigneur a dissipé l'obscurité, c'est un nouveau jour, une nouvelle marche vers la lumière et vers l'avenir. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse abondamment, mon frère, avec toi dans ce jour de joie. Oh, je trouve que c'est bouleversant, quoi. Punaise, le gars, il a assassiné d'une manière atroce sa frangine. C'est incroyable ce que le pardon peut apporter comme libération. C'était pas forcément, et c'est pas forcément le thème, mais je sens bien ici, dans cet auditoire, qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir le pardon et d'autres qui ont besoin de l'accorder. Je vous laisse ça sur votre conscience. Nul besoin d'être assassin pour accepter Jésus dans sa vie et devenir disciple, heureusement. Et ce matin, les témoignages que vous avez entendus en cette circonstance de baptême, vous êtes peut-être venu par amitié pour l'un des baptisés, c'est quelque part, en tout cas prenez-le comme une opportunité que Jésus vous donne pour que vous puissiez trouver le chemin de la liberté, la liberté intérieure, celle que nous cherchons les uns et les autres. Je pense à cette jeune fille qui était avec nous très volubile. Elle faisait ventilateur en été. Et un jour, je l'ai pris dans le bureau, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui se cache derrière l'expression de ta joie volubile ? Et elle m'a dit que pendant 10 ans, elle s'était fait violer par un de ses frères. Et elle a trouvé le chemin de la guérison intérieure par le Christ. La psychothérapie peut être utile pour savoir de quel mal on est atteint, mais ne peut pas apporter la guérison intérieure. Et Jésus, lui, dit à un moment donné dans une synagogue, en ouvrant le livre, il dit « Je viens pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je viens guérir ceux qui sont émotionnellement touchés, meurtris, blessés. » parce que Jésus veut guérir, parce que Jésus veut accorder la paix, parce que Jésus veut donner la joie. Qui a dit que Jésus, c'est un rabat-joie? Est-ce que vous voyez du rabat-joie ce matin? Et plutôt joyeux, quoi. C'est chouette de vivre avec lui. Je crois que les circonstances, aujourd'hui, vous êtes là et Jésus veut se servir de cette circonstance pour vous dire, mais viens vers moi, quoi. Ce que tu cherches depuis si longtemps, tu as entendu dans les témoignages, c'est moi qui l'accorde. Pas une religion, pas une église, mais le Christ lui-même qui vient par l'action du Saint-Esprit. Les deux crucifiés, je reviens à cela, les deux crucifiés avec Jésus, ils n'ont pas cherché d'être à côté de Jésus. Ils n'ont pas dit, nous, on veut bien être crucifiés à condition que Jésus soit là. La circonstance ont fait qu'ils étaient là. Et l'un reconnaît que Jésus-Christ est fils de Dieu et les portes du paradis s'ouvrent pour lui. L'autre est un râleur qui, sur la croix encore, dit « Si t'es vraiment le fils de Dieu, manne-toi de faire un miracle pour qu'on sorte de là, quoi. » Et peut-être que cet homme a encore râlé parce que Jésus n'a pas fait. Vous avez peut-être prié et demandé quelque chose à Dieu, à Jésus. Vous n'avez pas eu la réponse. En tout cas, vous n'avez pas eu la réponse peut-être que vous cherchez, parce que la prière que vous avez faite, ce n'était pas une prière, c'était une exigence. Je veux que tu agisses de telle manière. Et je veux que tu répondes comme ça. C'est bien parce que moi, j'ai fait ça. Quand j'ai demandé au Seigneur, si tu existes vraiment, manifeste-toi dans ma vie, il s'est manifesté, mais pas de la manière dont je voulais. Alors, donc, j'ai gueulé. Râler en disant, mais occupe-toi de tes affaires. Et le pasteur, à ce moment-là, de me dire, Bernard, tu pries. Alors, Jésus, il répond de la manière dont il veut. Après, tu es libre d'accepter ou de refuser. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. J'insiste seulement sur le fait que là, maintenant, aujourd'hui, au travers de ces baptêmes, Jésus frappe à la porte de ton cœur en disant « Laisse-moi rentrer, quoi. Laisse-moi changer, laisse-moi révolutionner ton cœur, ta vie, ton être. » Ouvre. Mais l'expression, excusez-moi, elle est un peu forte, mais Jésus n'est pas un violeur. Il ne force pas la porte. Il attend que vous puissiez entendre sa voix, ce qui est le cas aujourd'hui, au travers des baptêmes. Et il attend que vous ouvriez en disant, Seigneur, alors je veux bien ouvrir mon cœur, ouvrir la porte de mon cœur et viens. Viens te manifester dans ma vie comme tu t'es manifesté dans la vie de ceux qui ont pris le baptême aujourd'hui. Cette circonstance, Dieu le permet parce qu'il a envie de changer votre vie intérieure. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier. Je ne vais pas être long. Et je ne vais pas vraiment insister, parce que je crois que quand on veut au moins recevoir Jésus dans son cœur, ou au moins voir si il peut se manifester, alors il faut savoir. Dans la vie, il faut prendre des décisions, il faut s'y tenir. Donc, par respect, je vous ai demandé de fermer les yeux, et je voudrais juste demander, avant de prier, qui veut accepter d'ouvrir la porte de son cœur pour laisser Jésus entrer ce matin? Lève la main là où tu es, oui, tu peux fermer, oui, tu peux baisser la main, oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Oui, tu peux baisser la main, oui. Seigneur, je te prie pour tous celles et ceux qui lèvent la main, c'est comme si c'était leur prière. Viens, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, change-moi. Ben, Seigneur, tu as vu leur décision d'ouvrir la porte de leur cœur. Alors je te demande maintenant d'agir et d'intervenir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Je te prie que tu puisses interpeller chacun, toi, d'une manière personnelle, dans la vie de ces personnes. Voilà, tu agis, je le sais, chacun pour chacun différemment, parce que tu prends en compte notre personnalité et notre histoire. Et je te demande que, oui, dans les jours qui viennent, des hommes et des femmes ici puissent voir que tu interviens dans leur vie. Sois-en béni. Amen.